de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous allons présenter quelques programmes pour aujourd'hui, tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et modernisée, la revue suivante, magazine culturel, apprendre l'Indonésien, et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et la Malaisie se sont engagés à établir une norme commune pour la certification de l'huile de palme. Il n'y a pas encore de conclusion sur la négociation d'une région d'information de vol FIR avec l'Indonésie. Les pays producteurs d'huile de palme acceptent d'intensifier leur coopération pour augmenter leur prix. L'Indonésie et l'Union européenne renforcent le système de vérification de la légalité du bois dans l'amélioration de la gouvernance forestière. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a affirmé l'engagement d'Indonésie à réaliser la paix dans l'ASEAN. Et enfin, des athlètes d'escalade indonésiens se préparent pour Toulouse. Voici le journal complet. L'Indonésie et la Malaisie se sont engagés à établir une norme commune pour la certification de l'huile de palme qui deviendra une norme internationale avec les deux pays tout en faisant attention aux plantations des gens ou smallholders. Comme l'a déclaré Erlangga Hartarto, ministre indonésien de la coordination des affaires économiques, après avoir assisté à la deuxième réunion des ministres des pays producteurs de l'huile de palme à Kuala Lumpur en Malaisie, lundi le 18 novembre.
Tadi ada komitmen untuk membangun standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.
Lang de mes entretiens avec la ministre malaise de l'industrie de base, Teresa Kok, et que nous demanderons au Conseil des pays producteurs d'huile de palme, CPOPC, de défier les normes entre la norme indonésienne pour l'huile de palme durable, ISPO, et l'huile de palme durable de Malaisie, MSPO. Bien sûr, cela devient une norme internationale ensemble. Bien sûr, avoir la même considération que le problème concerne les petits producteurs de palmiers en huile, la position de l'Indonésie et de la Malaisie est la même. La mise en œuvre des normes est nécessaire pour garantir que les plantations et les produits fabriqués sont durables et respectent l'environnement. Avec l'existence de normes de certification en collaboration avec les producteurs de palmiers à huile, il sera aidé à progresser vers des plantations d'huile de palme durable. Le gouvernement de Singapour, par l'intermédiaire de l'ambassade de Singapour en Indonésie, s'est assuré qu'il n'y avait pas encore de conclusion du cadre de négociation de la salle de contrôle de l'air entre ce pays et l'Indonésie après l'accord le 8 octobre 2019. L'Indonésie et Singapour ont convenu d'un cadre de négociation pour deux questions, à savoir la région d'information de vol, ou FIR, et la formation militaire conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de mer, UNCLOS. Le conseiller de l'ambassade de Singapour en Indonésie, Hai Sihau, a déclaré lundi dans une déclaration écrite à Jakarta qu'il n'existait pas de délai dans la négociation de l'accord. des dirigeants du pays ont demandé à leurs ministres et leurs responsables de suivre les négociations détaillées sur la base du cadre. Les ministres et les responsables doivent également conclure et mettre en œuvre les accords en temps opportun. Il a déclaré que Singapour était déterminé à travailler avec l'Indonésie pour résoudre ces deux anciens problèmes de manière ouverte et constructive. La deuxième réunion du ministre des pays producteurs d'huile de palme, qui s'est tenue à Kuala Lumpur en Malaisie lundi, a recommandé plusieurs actions à suivre. L'un d'entre eux est de continuer à promouvoir et à augmenter la consommation de biocarburants afin d'absorber davantage d'huile de palme brute sur le marché mondial, notamment grâce aux efforts déployés par l'Indonésie pour mettre en œuvre le programme B30 en décembre. Le représentant de l'Indonésie, Erlangga Hartarto, ministre chargé de la coordination pour l'économie, a déclaré que les pays participants étaient convenus d'intensifier leur coopération pour élaborer des stratégies visant à augmenter le prix de l'huile de palme. Il a déclaré que la politique de l'Indonésie dans la mise en œuvre du programme de carburant B20 avait réussi à faire montrer les prix mondiaux de l'huile de palme.
Jadi beberapa hasil daripada pertemuan yaitu yang poin pertama adalah negara penghasil minyak lawas.
Certains des résultats de la réunion ont tout d'abord été que les pays producteurs de palmier à huile ont renforcé leur coopération pour développer des stratégies visant à améliorer les prix. Reconnu par les professeurs James Free et Paganini, les prix ont augmenté à la fin de cette année en raison de la politique de l'Indonésie consistant à appliquer le B20. Ils seront portés à B30 et le prix du palmier à huile dépasse déjà $600 par tonne, donc cette étape est vraiment appréciée par les autres. Le ministre Hartarto a ajouté lors de la réunion que la Malaisie avait également exprimé son engagement à mener le B20 en 2020. La Thaïlande s'est engagée à porter le programme B7 à B10. Il a ajouté que cette politique devrait être suivie par d'autres pays producteurs d'huile de palme et que, dans la mesure du possible, il pourrait accélérer l'utilisation du biocarburant, le B30. Selon lui, les membres des pays producteurs d'huile de palme, CCPOP, seront en mesure de suivre l'Indonésie dans la mise en œuvre du programme B20, même à 30. Il y a 10 ans, l'Indonésie a officiellement lancé le système de vérification de la légalité du bois, SVLK, afin de soutenir les efforts de préservation de ses forêts, d'éliminer la déforestation et d'accroître le commerce licite de bois. Lors d'une conférence de presse à tenue en marge de la réunion, réflexion sur 10 ans de mise en œuvre de SVLK et de 3 ans de licence de VLEC à Jakarta, l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Piquet, a déclaré lundi que SVLK pourrait être bien appliqué par l'Indonésie dans le cadre de sa coopération avec l'Union européenne. Les progrès ont été très bons. Nous avons vu une augmentation constante des exportations de bois d'Indonésie vers l'Union européenne. Nous avons vu une augmentation de la valeur ajoutée du bois indonésien vendu au marché européen. Il y a une augmentation en quantité qui est un bon signe. Le système fonctionne également sur le plan de la coopération entre les autorités indonésiennes et l'Union européenne, et ses États membres ont déclaré que c'était très positif et que nous tenons aujourd'hui la réunion du comité de mise en œuvre conjointe. Si vous avez vu l'agenda, il est très dense, des sujets très concrets rapportant ce que nous avons accompli et ce qu'il nous reste à faire. Donc, je suis assez positif à ce sujet, continuera à travailler pour aboutir à un résultat. Je suis donc très positif que cela va continuer à apporter des résultats. L'ambassadeur Piquet a déclaré que l'Indonésie était le premier pays à diriger cette collaboration parce que l'Indonésie est le plus grand producteur de produits de bois légal dans le monde. L'Indonésie peut également être un exemple pour d'autres pays du monde qui respectent fortement l'importance au système de vérification de la légalité du bois dans les domaines de l'application des lois, de la gouvernance et du commerce dans le secteur forestier ou FLEG. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a évoqué l'engagement de l'Indonésie à renforcer la paix, la prospérité et respecter par les autres régions. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Défense nationale, Prabowo, lors de la retraite de la réunion des ministres de la Défense des pays de l'ASEAN à Bangkok, en Thaïlande, dimanche. Comme cité par Antara, le ministre Prabowo Subianto a souligné que l'ASEAN dispose de ressources abondantes qui intéressent les forces mondiales. En outre, il a expliqué que les eaux de l'ASEAN sont la principale plaque tournante du transport et du commerce international. Toutefois, il sera difficile de développer et d'utiliser de manière optimale le potentiel des zones maritimes d'Asie du Sud-Est s'il n'y a pas de protection ni de garantie de la sécurité et de la sûreté de chaque pays membre de l'ASEAN. Selon Prabowo, face aux défis mondiaux, l'ASEAN doit continuer à renforcer son engagement et sa connectivité afin de créer la prospérité pour ses habitants. Le trio d'escalade indonésien Ari Susanti Rahayu, Alfian M. Fajri et Aspar Jailolo se prépare à affronter la pré-qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui se dérouleront à Toulouse en France le 25 novembre. Pristiawan Buntoro, directeur de l'équipe nationale d'escalade indonésienne, espère que l'Indonésie pourra tirer au moins un ticket en première. Mais si cela échoue, il y aura toujours une deuxième chance à un autre événement de pré-qualification à Tokyo en mai de l'année prochaine.
Target kita lolos kualifikasi. Kalau enggak lolos di Toulouse, masih ada.
Notre objectif est la qualification. S'il ne se qualifie pas à Toulouse, il le sera toujours en mai 2020 au Japon. Si Dieu le veut, nous pouvons avoir l'un des deux objectifs à Toulouse. Prestiawan a ajouté que les numéros combinés des Jeux Olympiques de Tokyo sont de nouveaux numéros qui sont une combinaison de trois numéros classiques utilisés pour l'escalade, la vitesse, le plomb et le bloc. Des problèmes se posent également parce que les chiffres combinés vont rendre difficile l'obtention de billets olympiques pour les grimpeurs du monde entier. Car ils se sont spécialisés jusqu'à présent dans trois numéros. Pour Pristiawan, aucun des athlètes d'escalade du monde ne peut être le meilleur en trois chiffres à la fois.
Combine, memang Olympic 2020 ini buat spot climbing memang bermasalah ini.
Combiné aux Jeux Olympiques de 2020, il est en effet difficile de pratiquer dans le sport d'escalade. C'est de nombreux combinés. Le monde entier reconnaît cela. C'est-à-dire que les chances de meilleurs grimpeurs d'accélérer avec le système combiné actuel. Alors, les meilleurs grimpeurs de vitesse du monde sont menacés de ne pas se qualifier en 2020. L'Indonésie, qui construit sa force principale en vitesse, espérera les figures Aris Susanti Rahayu et Alfian M. Fajri, qui figurent désormais dans le top 3 mondiaux de vitesse. Pour Aris, cette année a même été une réussite extraordinaire car elle a réussi à battre le record du monde de vitesse le 19 octobre dans la série de championnats du monde qui s'était déroulée à Xiamen en Chine. Aris, qui a établi un record de 6,995 secondes, a battu le précédent record imprimé par Yi Lin Song, qui avait enregistré un temps record de 7,101 secondes. Aris est même devenue la première alpiniste au monde à battre le record en moins de 7 secondes. Serge Ritard, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serge Mlanten, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la Journée mondiale des enfants. Demain, le 20 novembre 2019, le monde commémore la Journée mondiale des enfants. La commémoration de la Journée mondiale de l'enfance est pour célébrer et promouvoir le bien-être des enfants dans le monde entier. L'objectif est de respecter les droits qui doivent être obtenus pour un enfant. La Journée mondiale de l'enfance a été créée par l'Agence mondiale des Nations Unies en 1954. 5 ans plus tard, en 1959, les Nations Unies ont adopté une déclaration des droits de l'enfant et a désigné le 20 novembre comme Journée mondiale de l'enfance. En vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qui ont les moins de 18 ans sont des enfants. L'Indonésie a de grands espoirs pour les enfants aujourd'hui. Le thème de la commémoration du jour de l'indépendance de l'Indonésie cette année est « Excellente ressource humaine, l'Indonésie avancée en est l'une des preuves ». Ceux qui ont l'âge de l'enfant à ce moment-là sont censés devenir des ressources humaines supérieures pour amener l'Indonésie à devenir plus avancée. Les défis et les espoirs de faire des enfants comme personnes supérieures doivent être reconnus par tous ceux qui jouent un rôle, à partir des parents, des enseignants, du gouvernement et de l'environnement. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation et de la Culture, s'engage à permettre à l'unité de l'éducation de concevoir de nouvelles innovations dans le monde de l'éducation. Le ministre de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie, Nadiem Makarim, a déclaré lundi, lors de la cérémonie du 107e anniversaire de Muhammadiyah à Yogyakarta, qu'il souhaitait continuer à annoncer et à faire progresser l'éducation de caractère. L'un d'entre elles qui a été réalisé par l'éducation de la petite enfance, souvent appelée PAUD. Par PAUD, 5 valeurs principales du caractère sont construites, à savoir la religiosité, le nationalisme, l'indépendance, l'entraide et l'intégrité. Ces valeurs devraient renforcer plus tard les enfants indonésiens dans des ressources humaines qui n'abandonnent pas facilement face aux défis. D'excellentes ressources humaines doivent en effet être formées tôt, dès la période d'or des enfants. Pour l'Indonésie, non seulement la sensibilisation à ce sujet devrait être renforcée, mais des véritables actes qui doivent être faits. On espère qu'à travers l'éducation préscolaire dispensée dans plus de 230 000 unités d'enseignement aux écoles dans toute l'Indonésie, des générations religieuses, nationalistes et indépendantes ont un fort esprit de l'entraide et la grande intégrité. Bien sûr, les caractères qui sont construits à partir d'un âge précoce devraient mieux se développer dans l'enseignement supérieur. Chaque unité éducative doit continuer à innover pour motiver chaque élève à développer ses capacités, ses compétences et son caractère pour devenir la ligne de front qui amènera l'Indonésie à atteindre l'Indonésie Gold 2045. Avec les efforts de toutes les parties, nous espérons que les enfants indonésiens d'aujourd'hui ne deviendront pas seulement les dirigeants de l'Indonésie, mais qu'ils deviendront également les leaders mondiaux. Bonne journée mondiale des enfants.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 19 novembre 1969, Pelé a inscrit son 1000 buts. Pelé est une légende mondiale du football brésilien. Au cours de sa carrière, il a réussi à amener le Brésil à devenir 3 fois champion du monde de football, à savoir en 1958 en Suède, 1962 au Chili, et 1970 au Mexique. Grâce à ses succès, Brésil a droit de la Coupe Jules Rimet. Pelé prend le surnom de Oreille ou de Roi. Le 19 novembre 1969, il a inscrit son 1000 buts pour Santos. Le but a été créé lorsque Pelé a défendu Santos lors du match contre Vasco da Gama. Le 19 novembre 1977, Anwar Sadat a été le premier dirigeant arabe à se rendre officiellement en Israël. Le 19 novembre 1977, Anwar Sadat s'est rendu à Jérusalem à l'invitation du premier ministre israélien Menachem Begin, qui était le début de ses pourparlers de paix entre l'Israël et l'Égypte. En 1978, l'accord de paix de Camp David a été créé. Anwar Sadat et Menachem Begin ont reçu le prix Nobel de la paix. Le 19 novembre 1990, le chasseur furtif F. Wengdu Raptor fabriqué aux États-Unis a été piloté pour la première fois. À l'origine, l'avion devait être utilisé en tant que chasseur de supériorité aérienne contre un chasseur soviétique. Mais il est également doté d'équipements pour les attaques au sol, la guerre électronique et les signaux de renseignement. Le F-22 Raptor a volé pour la première fois le 19 novembre 1990. Lockheed Martin Aeronautics était le principal contractant responsable de la production de la plupart des cellules, des armes et assemblages du F-22. Ensuite, son partenaire Boeing Integrated produit des ailes, du matériel avionique ainsi que des activités de formation pour les pilotes et de maintenance. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Bekas kincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi. Aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, pun ku tak bermimpi entahlah ini pertanda apa. Sering malu karena sujud, hanya bila tertekan duhai pria yang mengaku-ngaku dewasa. Konon kebal membeku, dididikan pun tak mampu. Ini dia si jago pemalu. Bila kau pikir aku sekuat itu, 2, 4, 7 aku bahagia. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Mustahil tak bercela di depan cermin Sabtu pagi. Aku bicara dengan pantulanku. Bunga tidur bisa membawamu terkubur jauh dari sekedar akar hantui pikiran. Kadang ku jatuh cinta, kadang naik sip hitam, kadang gelap malam, kadang semua tuli. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Kau salah kawan, dia pagar jarak pandangmu. Selama ku lihat engkau senang, yang lainnya ku simpan sendiri.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Fleurs endormies » chantée par Toulouse. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, voici mon Indonésie. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Modernisie intitulée L'Indonésie initie une résolution des Nations Unies pour l'économie créative. L'Indonésie a initié une résolution ou une décision des Nations Unies sur l'économie créative lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a été adoptée par consensus le 14 novembre 2019 à New York. La résolution intitulée « L'année internationale de l'économie créative pour le développement durable 2021 » a souligné le rôle crucial du secteur de l'économie créative dans la promotion du développement durable. Selon les pages de kemlu.go.id, représentant permanent de la République d'Indonésie auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Dian Tiansajani a souligné que l'Indonésie a pris diverses mesures pour intégrer l'économie créative à l'ONU, compte tenu de sa contribution au développement durable dans de nombreux pays. Pour la première fois, l'Indonésie a pris une décision de l'ONU sous la forme d'une résolution économique créative, ce qui n'avait pas encore été fait par d'autres pays. L'Union européenne et un grand nombre de délégués ont hautement apprécié l'initiative de l'Indonésie. En outre, la résolution de l'Indonésie, pérennée par 81 pays, encourage les investissements dans la production et le commerce du secteur créatif et soutient le rôle des micro, petites et moyennes entreprises, des femmes, des jeunes, des communautés locales dans le développement de l'économie créative. L'économie créative est un secteur résilient qui continue de croître au milieu de la crise économique. Sur la base de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de 2018, le secteur est en croissance plus que doublée sur la période 2002 jusqu'à 2015, de 208 milliards de dollars américains jusqu'à 509 milliards de dollars américains, avec une croissance moyenne de 7% sur la même période. L'économie créative peut contribuer de manière positive à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment en ce qui concerne l'éducation de qualité, la parité hommes et femmes, la croissance économique, l'emploi et le travail décent, la réduction des inégalités, les zones urbaines et résidentielles, ainsi que des modes de production et de consommation durables. La résolution sur l'économie créative adoptée par le Comité 2 de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies est un suivi de la Conférence mondiale sur l'économie créative initiée par le ministère des Affaires étrangères et l'Agence indonésienne du tourisme et de l'économie créative à Bali, novembre 2018. Le Comité 2 est un comité spécial des Nations Unies qui s'occupe des domaines de l'économie, du développement, des finances et de l'environnement. L'Indonésie, représentée par l'ambassadeur Tiansajani, a été président du Comité 2 de 2016 jusqu'à 2017. Le Comité 2 est actuellement présidé par l'ambassadeur du Sénégal. C'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Selalu setia. kan selalu setia
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel en produisant la lagune Dodo, qui se trouve en Provence Lampung. Voyager en Provence Lampung, la baie Kiluan et Waikambas sont devenues les principales destinations touristiques, même si cette province, la plus méridionale de Sumatra, compte encore de nombreuses destinations touristiques attrayantes. L'une d'entre elles, la lagune Dodo. La lagune Dodo est une belle piscine naturelle. La lagune est bordée de gros coraux qui forment naturellement une lagune comme une piscine au bord de la mer. Cet objet de tourisme est situé à Kiluan Negeri, Kelumbayan, en région Stangamus, Lampung. De la ville Bandar Lampung, il faut environ 3 à 4 heures pour se rendre à la lagune Dodo, avec la distance d'environ 80 km. En arrivant dans la zone touristique de la lagune Dodo, il vous reste à marcher environ 3 km du parking en direction de la lagune. En chemin, vous passerez des collines et des plantations communautaires, ainsi que la mer de la plage Gayo au loin. Même s'il traverse des rochers glissants et escarpés, vous serez épuisé par le magnifique paysage qui se présente une fois à la lagune Dodo. Le sable blanc et la couleur turquoise de l'eau sont l'attraction principale de la lagune Dodo. Dans la lagune Dodo, il y a une grande lagune et deux plus petites. Cette piscine est limitée par de grands récifs coralliens qui empêchent les vagues de la mer de frapper l'étang. Toutefois, l'eau de la piscine naturelle de la lagune Dodo est l'eau de mer encore salée. visitant ce site touristique, vous pouvez essayer la sensation de nager dans la lagune, comme si vous avez une piscine privée au bord de la mer. Le bruit des grandes vagues bloquées par des roches de corail a été clairement entendu. De temps en temps, vous pouvez aussi entendre sciemment chanter au loin. N'oubliez pas de capturer la beauté de ces paysages naturels. Les autres installations comprennent des salles de prière, des salles de bain et un grand parking. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie. Au revoir.
Persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu yang melanda di saat jauh dari sini.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Pour toi » chantée par Abdul. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, pour l'heure suivante, voici « Apprendre l'Indonésien ». Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'Indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est pukul 7 sampai pukul 8. Je répète, pukul 7 sampai pukul 8. Ou en français, 7h à 20h. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre pukul 7 sampai pukul 8 ou 7h à 20h. Dans le salon de la maison de Joko, Tony et Enda sont en train de parler du travail de Joko.
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Chers amis, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et vocabulaire reliant au thème d'aujourd'hui. Joko sibuk sekali. Joko sibuk sekali. En français, Joko est très occupé. Dia bekerja setiap hari. Dia bekerja setiap hari. Il travaille tous les jours. Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. En français, il travaille tous les jours sauf samedi et dimanche. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. En français, 7h du matin. Jam 8 malam. Jam 8 malam. En français, 8h du soir. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. En français, il travaille de 7h du matin à 8h du soir. Joko bekerja setiap hari. Compare simple la phrase suivante. Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. En français, Joko travaille tous les jours sauf samedi et dimanche. Le sens de la phrase est Joko travaille lundi à vendredi et il ne travaille pas le samedi et dimanche. Si tu veux utiliser une phrase comme ça, utilisez le mot « kecuali » en français « sauf ». Comme par exemple, « Saya tahu semua orang di sini kecuali dia. » Saya tahu semua orang di sini kecuali dia. En français, je connais tout le monde ici sauf lui. Semua buku ini milik saya kecuali yang berwarna kuning. Semua buku ini milik saya kecuali yang berwarna kuning. En français, tous ces livres sont à moi sauf le jaune. Saya belajar setiap hari kecuali hari Minggu. Saya belajar setiap hari kecuali hari Minggu. En français, j'étudie tous les jours sauf le dimanche. Et ensuite, pour maintenir la durée de temps, vous pouvez utiliser le mot sampai ou en français jusqu'à ou bien à. Comme par exemple, saya bekerja jam 8 sampai jam 5. Saya bekerja jam 8 sampai jam 5. en français, je travaille de 8h à 17h. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. En français, elle est à l'université du lundi au samedi. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. En français, j'habite en Égypte de 2000 à 2003. Notez que le mot jam ou heure est utilisé uniquement dans les conversations. En ce qui concerne la variété formelle, utilisez le mot pukul ou bien en français heure. Comme par exemple, kami belajar pukul 8 sampai dengan pukul 12. Kami belajar pukul 8 sampai dengan pukul 12. En français, nous avons étudié de 8h à midi. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons exemple de la conversation encore une fois.
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.
I'm sorry, cinta.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Je suis désolé » chantée par Vizi. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.vonews.id. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter d'abord magazine musical.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Dans cette édition, nous présentons une chanson malaise dont le titre est Sri Lankat, interprétée par Iyad Bustami. Chers auditeurs, la chanson intitulée Sri Lankat se compose de vers de pantun contenant du sampiran et du contenu. Les paroles de cette chanson parlent de conseils de vie pour lesquels nous devons enrichir notre bagage et non arrogants pour vivre. C'est une chanson malaise qui est assez populaire. Cette chanson a été chantée par de nombreux chanteurs en différentes versions. L'un d'eux est Iyad Bustami. La chanson de Sri Lankat figurait dans l'album de Pop Melayu 4060. Pop Melayu 4060 est un premier album de musique des chanteuses indonésiennes Iyad Bustami, sorti en 1994. Voilà la chanson dont le titre est Sri Lankat, chantée par Iyad Bustami. Bonne écoute!
Sampan menuju pulau Amboi. Bila sampai ada ku tak tahu sayang. Ombak dan badai takkan ku hirau asalkan sampai tempat tujuan.
Amboi Sri Lanka, Amboi Sri Lanka.
Tersebut sudah dalam hikayat Laksmana hang tua sekian.
menjunjung harga. Juga martabat, jangan melayu buang
C'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.